Vous êtes sur RTL.
Il est donc 6h30. Le journal avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est désormais au pape de décider.
Le cardinal Barbarin va lui remettre sa lettre de démission. Il a été condamné hier à 6 mois de prison avec sursis pour avoir couvert les agissements du père Prénat. Au prud'homme, les juges ne respectent pas assez le nouveau plafonnement des indemnités. Ils viennent de se faire recadrer par la garde des Sceaux. Et puis évidemment, nous parlerons de l'exploit breton. Oui. Rennes surprend tout le monde en s'imposant 3-1 face à Arsenal en 8e finale aller de la Ligue Europe, s'il vous plaît.
PSG aussi a surpris tout le monde. Dans 13 minutes, le surf de l'info avec vous, Cyprien Sini, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous allez surfer avec les spécialistes du foot.
Et oui, plus de 24 heures après le séisme du PSG, nous ne les oublions pas.
De météo d'ici 7h.
En Vendée, aux Herbiers, un ciel dégagé, 5 degrés ce matin, un peu de pluie et 13 degrés cet après-midi. RTL Matin.
Le pape François décidera donc de l'avenir du cardinal Barbarin.
L'archevêque de Lyon, condamné hier à 6 mois de prison avec sursis, a annoncé qu'il remettrait sa démission en personne au souverain pontife. Il a été reconnu coupable, on le rappelle, de ne pas avoir dénoncé les abus sexuels commis par le père Prénat.
Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours.
Des propos recueillis par Frédéric Perruche. Face à l'archevêque français et sa venue en personne, que décidera le pape François? Ce n'est pas si simple, Anne Lenier.
Pour le pape, à qui le cardinal Barbarin va remettre sa démission en main propre et sans trop tarder, la question s'annonce plus que délicate. À la fin du sommet international contre la pédophilie, qui s'est récemment tenu au Vatican, François a promis une lutte à tous les niveaux contre les abus sexuels qui ne doivent plus jamais être dissimulés. Mais à ce jour, en cas de démission d'un évêque, il n'y a pas de procédure standard. Le pape peut donc décider dans l'attente du procès en appel, de suspendre temporairement de ses fonctions l'archevêque de Lyon et de nommer un administrateur apostolique pour gérer les affaires courantes. Ou bien, il peut accepter la démission du primat des Gaules, ce qui serait un signal très fort pour les victimes de prêtres pédophiles et pour tous ceux qui attendent l'application de la tolérance zéro au sein de l'Église.
Anne Lenier, la correspondante de RTL en Italie, au-delà de l'annonce de sa démission, le cardinal Barbarin a annoncé que sur le plan judiciaire, il allait faire appel de sa condamnation. Eux aussi vont aller en appel. Ils attendront leur nouveau procès dehors. Les deux policiers du 36 Quai des Orfèvres, condamnés à 7 ans de réclusion pour le viol d'une touriste canadienne, eh bien, ces deux policiers sont sortis de prison hier. Ils ont évidemment été placés sous contrôle judiciaire. C'est lundi que nous saurons à combien d'années de prison est condamné Mehdi Nemmouche, le terroriste qui a tué 4 personnes au musée juif de Bruxelles il y a 5 ans, a été reconnu coupable hier.
RTL, 6h33. Emmanuel Macron veut aller, je cite, plus fort, plus vite, plus loin dans la transition écologique.
C'est le message qu'il a voulu faire passer hier lors d'un échange avec 400 personnes dans les Alpes de Haute-Provence, dans le cadre du Grand Débat. Le président de la République a notamment développé ce thème de l'environnement, ça se passait à Gréoux-les-Bains. Parmi ses interlocuteurs, des collégiens très concernés par l'avenir de la planète.
Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis un élève du collège de Saint-André-les-Alpes. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie, puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation, et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amené à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent?
Alors, je ne peux pas du jour au lendemain dire tout le monde passe d'un modèle à l'autre. C'est impossible. Et donc c'est pour ça que ce qu'on doit faire, c'est une transition. C'est le passage d'un modèle à l'autre.
Il y a déjà une solution. Si les personnes commencent déjà à ramasser leurs déchets, etc., on pourrait avoir une planète plus...
Plus propre.
Plus propre.
Quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Propos recueillis par Dominique Tenza pour RTL.
Nicole Belloubet recadre les juges des prud'hommes.
La ministre de la Justice leur demande de respecter la loi. Vous le savez, depuis les ordonnances Macron de 2017, en cas de licenciement abusif, les indemnités sont plafonnée. Mais les conseils Prud'Homo peuvent ne pas respecter ce cadre. Il faut argumenter, mais c'est possible. Ils ne s'en privent pas d'ailleurs. D'où cette circulaire de Nicole Belloubet, Christophe Ponzio.
Effectivement, circulaire sur fond de rappel à l'ordre de la garde des Sceaux qui rappelle au conseiller Prud'Homo, qui ferait de la résistance, que ce plafonnement a été validé par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative du pays. Nicole Belloubet lance donc un audit pour évaluer l'application ou non du barème des ordonnances Macron en cas de licenciement abusif. Car de nombreux avocats plaident l'inconventionnalité de ce nouveau plafond fixé à 20 mois de salaire maximum et contraire à deux textes internationaux qui s'imposent à la France, un barème qui est aussi inéquitable, disent-ils, car basé sur l'ancienneté seule des salariés mis à la porte, cela veut dire qu'il ne prend pas en compte l'âge, par exemple, du salarié licencié, jeune actif ou senior, autrement dit, s'il a plus de chances de retrouver du travail ou non, rien non plus sur son contexte familial ou professionnel. Ainsi, plafonner les dommages et intérêts des prud'hommes ne permet pas, selon eux, de réparer le véritable préjudice subi. Le ministère de la Justice cherche donc à combler la brèche ouverte, car il est encore temps, il ne s'agit pour l'heure que de jugement en première instance, il faut encore qu'il soit confirmé en appel et par la Cour de cassation pour faire jurisprudence.
Les explications de Christophe Ponzio pour RTL.
Allez, une pause sur RTL et dans un instant dans le journal, Donald Trump accusé d'un nouveau mensonge.
Poste. RTL Matin, Julien Cellier.
Vous écoutez RTL, 6h37, Donald Trump et ses mensonges, suite.
Nouvelle affaire qui concerne le président américain. Selon son ex-avocat Michael Cohen, qui décidément ne s'arrête plus dans les révélations, Donald Trump aurait été dans sa jeunesse un élève médiocre. Pourtant, Philippe Corbet, bizarrement, le principal intéressé a toujours clamé haut et fort le contraire.
Oui, il se vante souvent d'être très intelligent.
I'm really smart. I'm smart. One of the smartest people everywhere in the world.
L'un des plus intelligents au monde.
Super genius of all time.
Le super génie de tous les temps. En 2011, alors qu'il envisageait de se présenter contre Obama, il avait affirmé que le président en place avait été un élève médiocre et se demandait comment il était entré à Columbia et Harvard. Sous-entendu, il avait bénéficié de la discrimination positive parce qu'il est noir. Il promettait même 5 millions de dollars à quiconque publierait les bulletins scolaires d'Obama. Le Washington Post révèle aujourd'hui que dans les jours qui ont suivi, des proches de Trump ont menacé l'établissement qu'il a fréquenté entre ses 13 et 18 ans, un pensionnat privé où son père l'avait envoyé pour le discipliner. Le directeur a reçu l'ordre de ses hiérarchies de retrouver les bulletins scolaires de l'élève Trump pour les lui remettre. Il est bien allé fouiller les archives à la cave, mais a préféré cacher ses bulletins pour qu'ils ne soient pas détruits. Ça confirme le témoignage au Congrès de l'ex-avocat de Trump. Il était chargé de menacer financièrement les anciennes écoles pour que ses notes ne soient jamais rendues publiques.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. En Algérie, ce vendredi sera un nouveau jour de protestation. Une grande marche est prévue dans la capitale contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État, on le rappelle, est toujours hospitalisé en Suisse.
Allez, on en vient à cette surprise bretonne hier en Ligue Europe. Rennes l'a emporté face à Arsenal.
3-1. Oui, ce n'est que le 8e de finale aller. Oui, il ne faut jamais se croire arrivé. Suivez mon regard. Il n'empêche que les Rennais ont électrisé le Razon Park et cette divine victoire fait du bien. Ce n'est pas le président de Rennes, Olivier Létang, qui dira le contraire.
Le premier sentiment est un sentiment de fierté parce que on veut donner des émotions, transmettre de la passion. Je pense que ce soir, ça a été le cas. Ils ont été fantastiques. Il y a eu une atmosphère au Razon Park, d'après ce que l'on m'a dit après le match, qui n'avait jamais été connue. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et puis, la fierté aussi d'être le premier club français à battre Arsenal dans une compétition européenne sur notre sol. Donc, tout ça fait que, effectivement, c'est une très belle soirée. Néanmoins, Arsenal reste le grandissime favori. Et nous irons à Londres avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité et avec la volonté d'aller marquer au moins un but.
L'humilité d'Olivier Létang, elle s'entend, hein, le président de Rennes avec Philippe Audouin.
Ouais, vivement jeudi prochain. En rouge et noir, j'oublierai mes peurs, hein, comme dit
une grande philosophe. Jeanne, si tu nous écoutes.
On est tous à fond là, hein, sur Jeanne Masse.
On est à fond, sur le stade rennais surtout, on est à fond. Merci beaucoup Agnès, on vous retrouve tout à l'heure.
À
8h.